Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Bonjour à tous. Voici le troisième numéro de Saluton, émission consacrée à l'espéranto. Nous poursuivrons tout à l'heure l'apprentissage de la prononciation avec Guy, Joël et Laurence. Mais commençons cette émission avec Ange, qui vous propose une évocation du rapport grain.
Après avoir évoqué donc le docteur Zamenhof, Louis Lazare Zamenhof, la semaine dernière, je voulais aujourd'hui vous parler de François Grain. Qui est François Grain et pourquoi il est important d'en dire quelques mots? Eh bien, en fait, François Grain est professeur à l'Université de Genève. Le Haut Conseil à l'évaluation de l'école lui a demandé de faire un rapport sur l'enseignement des langues. Donc ce rapport, dont le titre exact est « Coût et justice linguistique dans l'élargissement de l'Union européenne », on l'a très vite appelé le rapport Grain, d'ailleurs, du nom de son auteur, donc est un document qui a été fait et rédigé en 2005. Donc ce document va traiter de la politique linguistique de l'Union européenne, du point de vue du coût économique pour les États membres, ainsi que des implications politiques et culturelles. Il y étudie notamment trois scénarios. Le premier scénario, ce serait le choix d'une seule langue naturelle. Et dans le rapport, donc, il s'intéresse à l'anglais. Ensuite, le deuxième scénario, ce serait le choix d'un trio de langues naturelles, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le plurilinguisme. Et dans le scénario numéro 3, l'hypothèse qui est étudiée, c'est l'utilisation de l'espéranto. L'accent n'est pas mis sur les implications de la mise en œuvre de ces scénarios. Mais ces scénarios sont comparés en termes d'efficience et d'équité. Il est à noter que c'est la première fois qu'on essaye de fournir des ordres de grandeur, des données chiffrées sur les transferts économiques et sur les économies qui seraient réalisées en cas de passage d'un scénario à un autre. Les principaux résultats de la comparaison entre scénarios sont les suivants. Alors, le Royaume-Uni gagne à titre net au minimum 10 milliards d'euros par année du fait de la prédominance actuelle de l'anglais. Si l'on tient compte de certains autres effets, cette somme peut aller jusqu'à 17 à 18 milliards d'euros par année d'économie pour ce pays. Et évidemment, ce chiffre serait encore plus élevé si l'hégémonie de cette langue venait à être renforcée. Alors, il faut préciser que ce chiffre ne tient pas compte des effets symboliques, c'est-à-dire l'avantage qu'ont les locuteurs, les personnes qui parlent donc cette langue dans toutes les situations de négociation ou même de conflit se déroulant dans leur langue. Alors ensuite, le scénario trilingue consiste à demander à chaque citoyen européen de connaître deux langues parmi le français, l'allemand et l'anglais. Donc, selon le rapport Grain, ce scénario ne change pas les coûts d'enseignement des langues. La solution trilingue tend un petit peu à réduire les inégalités entre les locuteurs, mais exige un effort de la part de ceux-ci, dont la langue maternelle ne figure pas parmi les trois retenus. Toutefois, il est souligné dans le rapport que cette situation trilingue n'est pas stable. Elle exige beaucoup de prudence et de mesures d'accompagnement, car elle risque de basculer dans l'adoption d'une langue unique. Alors, ensuite, nous avons l'hypothèse donc de l'adoption de l'espéranto dans les pays européens. Donc, l'auteur du rapport indique que le choix de l'espéranto conduirait à une économie annuelle de 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros. Et rien que pour la France, cette économie se chiffrerait à plus de 5,4 milliards d'euros par année. Alors, le problème avec l'adoption de ce scénario, c'est-à-dire l'apprentissage de l'espéranto dans tous les pays européens, sont plus d'ordre, on va dire, psychologique. Il faudrait essayer de gérer les fréquentes réactions de rejet à l'égard de l'espéranto, car cela rend pratiquement impossible la mise en œuvre à court terme de ce scénario. Par contre, il est recommandé, dans le cadre d'une stratégie de long terme, de le mettre en place sur une génération. Alors, en faisant attention toutefois à deux conditions, on va dire, qui sont critiques pour son succès, c'est-à-dire, évidemment, il faudra faire un très gros effort d'information. C'est ce que nous essayons de faire aussi dans le cadre du groupe espérantiste Périgourdin, afin de surmonter les réticences qui entourent cette langue et qui sont en général basées sur de la simple ignorance, et d'aider donc les mentalités à évoluer. Et deuxièmement, la deuxième condition pour que ce scénario puisse être un succès, c'est-à-dire il faudrait une véritable coordination entre les États en vue de la mise en œuvre commune de ce scénario, c'est-à-dire de l'apprentissage de l'espéranto. Donc le recours à l'espéranto est donc dans l'intérêt évident de plus de 85% des citoyens européens, surtout après l'élargissement de l'Europe survenu en 2004. Donc ces montants qui se chiffrent quand même en milliards d'euros annuels, dans tout autre domaine de la politique publique, de tels transferts d'argent seraient immédiatement dénoncés comme inacceptables. C'est un cadeau que l'on fait, c'est un cadeau. À titre de comparaison, l'intégralité des dépenses budgétées pour 2005 par l'Union européenne est de 116, et de un petit peu plus de 116 milliards d'euros. Donc 25 milliards sur 116 milliards d'euros, ce n'est pas rien. C'est un petit peu moins du quart du budget de l'Europe qui pourrait être investi et utilisé ailleurs. Il va de soi que ce n'est pas la langue anglaise en tant que telle qui est en cause, mais l'hégémonie linguistique, quel que soit le pays ou le groupe de pays qui en bénéficie. C'est dans ce sens que l'adoption de l'espéranto comme langue pont, langue internationale, se révèle être une solution équitable et respectueuse de chacun.
Merci Ange. Nous retrouvons maintenant Guy, Joël et Laurence pour apprendre à prononcer l'espéranto. Nous en sommes au mot contenant la lettre E.
Le E maintenant, qui se prononce E. Exter.
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 C'est à l'extérieur ?
Voilà, à l'extérieur. La lettre E, nous la trouverons aussi donc à la fin d'un...
Un adverbe.
D'un adverbe, très bien. On a déjà dit bonne pour bien, courage, courageusement, etc. Electi.
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 On peut penser à élire,
oui, mais, oui.
Mais c'est un mot plus général, choisir.
Ah oui.
Choisir. N.
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 Qui s'écrit en, en, dans, voilà. Esperi.
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 Bah, espérer.
Espérer, le verbe qui a donné le mot esperanto, celui qui espère. Donc, c'est ainsi que se nommait Zamenhof, doctor esperanto, le docteur qui espère. Esti.
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 C'est le verbe être.
C'est le verbe être, un verbe particulièrement important, très employé, le verbe être, esti. Le F se prononce comme en français.
F.
F, faux.
Faux, très bien. Donc, facile. Après vous.
Facile.
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 Alors, facile serait l'adjectif facile, et facile est
facilement.
L'adverbe facilement. Très bien. On n'oublie pas que le ts, c'est la lettre. Le ts de facile, c'est la lettre c. Très bien. Fari.
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 Faire.
Le verbe faire. Filo.
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 Filo. Le fils.
Le fils. Allez, on va dire la fille. Comment dit-on la fille ?
Filino.
Filino, très, très bien, très bien. Donc, filino, ben, disons tout de suite à nos amis auditeurs que pour féminiser, le O terminal sera remplacé par ino. Donc, filo devient filino. Frato.
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 Le frère ?
Le frère. Et donc, la sœur ?
Fratino.
Très bonne. Fructo.
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 Un fruit.
Un fruit, très bien. Le G se prononce toujours G. Donc la lettre G en espéranto se dit go. Alors, toujours, hein, c'est-à-dire quelles que soient les lettres qu'il y a avant et notamment après. Donc il faudra se méfier puisque le français ne gère pas la lettre G de la même manière. Gazetto.
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 Un journal, un magazine.
C'est un journal, très bien. Il existe aussi le mot giornalo. Mais gazetto, c'est plus typiquement un journal. Glasso.
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 Un verre.
Un verre. Glace en anglais. Granda.
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 Grand.
Grand. Comment dit-on petit?
Malgranda.
Malgranda. Pour signifier le contraire, on ajoutera simplement le préfixe mal, M-A-L. Grave.
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 Grave. Grave dans le sens d'important. On traduira plus généralement par important, mais grave convient aussi. Je vous dirai souvent ne gravas. Ça n'est pas important quand vous ferez
des erreurs.
Éventuellement. Si, par malheur, cela arrivait. Alors, longa.
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 Long.
Long, très bien. Alors, une nouvelle petite difficulté, mais un son aussi que nous connaissons. La lettre G peut porter un accent circonflexe et elle devient Joe. Alors, le prénom américain, Joe. Une actrice de cinéma française, Adjani, Isabelle Adjani, un adjoint, etc. Djibouti. Donc ce sont Je, le prénom Jamel, etc. Hein? Donc ce sont, nous le connaissons bien malgré tout. Donc il est traduit par un G chapeau, G accent circonflexe. Giardino.
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 Un jardin.
Un jardin, garden en anglais. Largia.
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 Large.
Large.
Large. Loggi.
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 Loger ou habiter.
Loger ou habiter, très bien, c'est un verbe. Mangi.
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 Manger.
Manger. Donc, mangi s'écrit M-A-N-G, accent circonflexe, I. Passons au H. Alors, le H est, en français, on dit un H aspiré. En fait, il faut expirer pour prononcer cette lettre. Alors, par exemple, haro.
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 Joël?
Haro. Là, ça va être le problème.
N'est grave. Haro. Donc, en fait, il faut quand même ne pas hésiter à bien le... Il faut le laisser entendre, parce que si un espérantiste n'entend pas le ha, c'est-à-dire le
H.
Cette lettre H, il ne l'écrira pas, encore une fois, une lettre, un son, une lettre. Haro. Qu'est-ce que c'est? Haro.
Les cheveux.
C'est un cheveu. Hair en anglais. Donc, ce H aspiré existe, par exemple, en anglais. Havi.
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 Havi. Avoir.
C'est le verbe avoir. Helpi.
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 Helpi. Aider.
Très bien, Joël, je l'ai entendu cette fois-ci. Horo.
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 L'heure.
L'heure. Hundo.
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 Chien. C'est un chien. Très bien. C'est un chien, et là, le mot vient de l'allemand, c'est Hund en allemand.
Ah, je ne savais pas.
Alors, voici le seul son qui ne figure pas dans notre alphabet, en tout cas qu'on ne peut pas composer dans notre alphabet, c'est le H, accent circonflexe. Alors, je vous rassure, d'abord, c'est une lettre qui est très peu fréquente en espéranto, et c'est une lettre que les hispanisants connaissent bien, c'est la Jota. Ou bien c'est le CH dur allemand, le CH que l'on trouve dans Nacht, Gute Nacht, bonne nuit. Alors, ce H sapo, donc, ça sera la lettre ho. À ne pas confondre avec le ho que nous venons de voir. Ho, le H. Ho, le H chapeau. Alors, je vous ai proposé que deux exemples. Horo.
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 L'heure.
Non, c'est un chœur. Mais un chœur chanté. C-H-O-E dans l'eau, U-R. Donc, c'est un chœur chanté. À ne pas confondre avec le palpitant cœur. Coro, que nous verrons dans quelques instants. Notre cœur, le palpitant. Et deuxième exemple, echo.
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 Voilà, très bien Guy, echo. C'est l'écho. Voilà. Alors, il y a d'ailleurs même... pardon.
Là, t'as pas eu d'écho pour
ça. Exactement. Cette lettre est donc peu fréquente en espéranto et tend même à disparaître. Par exemple, chemio voulait dire la chimie. Et maintenant, on dit plutôt chemio. Mm. Donc, cette lettre est remplacée très souvent par un K. Mm. Bon, ça ne peut pas avoir lieu avec choro, puisqu'il faut quand même distinguer le cœur chanté du coro, notre cœur. Ça décoiffe aussi chez les espérantistes et on trouve de la musique pour toutes les générations. C'était le groupe polonais Crio de Morto que l'on peut traduire par cri de mort. Le titre était Sur la arbo, soit sur l'arbre. Retrouvons nos amis.
Le i se prononce comme en français.
I.
I. Ideo.
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 Alors, à noter que dans ce petit mot de quatre lettres qui veut dire...
Une
idée, très bien, il y a trois syllabes. Ideo, et vous avez bien, tous les trois, accentué la lettre E. Ideo, l'avant-dernière syllabe. Instrui.
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 Très bien.
Instruire, enseigner.
Instruire, enseigner. Interessa.
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 Très bien.
Intéressant.
Bone. Ciu tiu leziono estas interessa.
Yes.
Dankon. Cette leçon est-elle intéressante et vous m'avez répondu.
Yes. Yes.
Oui. Continuons. Iri.
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 Aller.
C'est le verbe aller. Bon, qu'on le retrouve dans nous irons. Mais
ni iros
ni iros, voilà, mais nous irons en français, ben, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. C'est un verbe qui est quand même plutôt irrégulier et qui doit être très difficile à apprendre pour nos amis étrangers. Familio.
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 Très bon, et vous avez mis l'accent tonique sur le dernier i. Sur de la, donc, familio. Dans lio, il y a deux syllabes, et c'est bien le i qu'il fallait accentuer. Le li qu'il fallait accentuer.
C'est une famille.
Familio, c'est une famille. Très bien. Je peux répondre d'ailleurs par le mot suivant, yes. Yes. Alors, yes, nous l'avons vu, ça commence par la lettre J, qui va donc se prononcer
y,
comme notre Y. Yes. Yuna.
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 Jeune.
Voilà, jeune. Alors, à l'intérieur d'un mot, il faut penser que c'est un I. Bref, fairo.
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 C'est
le feu.
C'est le feu. Fire en anglais. Alors, fairo, ça s'écrit F-A-J-R-O. Fai, c'est une syllabe. Et donc, on n'accentue pas le J, on accentue fai en ensemble. C'est une syllabe. Et évidemment, la dernière syllabe est atténuée. Fairo. Haroi.
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 Les cheveux.
Des cheveux, effectivement. Nous avons vu haro tout à l'heure. Haroi, des cheveux. Donc, on forme le pluriel en mettant la lettre J à la fin du mot. Voyagi.
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 Voyager.
Très bien. Et vous n'avez pas dit voyagi, vous avez bien prononcé voyagi, tous les trois. C'est bien le verbe voyager. Alors, le J du français s'écrit en espéranto avec un chapeau, un accent circonflexe. J chapeau se prononce donc jo. Sans chapeau, yo. Avec chapeau, jo. Jalousa.
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 Jaloux ?
Eh oui, jaloux ou jalouse, puisque en fait les adjectifs ne s'accordent pas en genre masculin et féminin, c'est le même mot. Jetti.
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 Jeter.
Le verbe jeter. Mangiajo.
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 C'est pas de la nourriture ?
C'est de la nourriture. Alors nous verrons dans quelques séances que ajo est un suffixe qui concrétise manji, manger, mangiajo, c'est quelque chose qu'on mange, c'est donc de la nourriture ou un aliment. De même, trincajo.
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 Ben de la boisson.
C'est une boisson, effectivement, ou de la boisson, puisque trinki, c'est le verbe boire. Passons à la lettre K. Donc la lettre K se prononce comme en français, mais c'est la seule lettre qui va correspondre au que. Donc en espéranto, c'est la lettre ko. Capo.
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 La tête.
La tête. En occitan, la tête se dit lukap. Knabo.
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 Un enfant. Non, un garçon.
Un garçon, très bien. Alors, une fille se dira
Knabino.
Très bonne. Consenti.
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 Consentir.
Consentir, être d'accord, parfait. Alors, coro.
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 Le cœur.
Voilà, c'est le cœur, le palpitant. Nous en avons parlé tout à l'heure pour le distinguer du choro, le cœur chanté. Et pour finir avec la lettre K, kuri.
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 Courir.
Courir. La lettre L se prononce comme en français, labori.
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 Travailler.
Le dur labeur. Lazza.
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 Lassé, fatigué.
Miestas lazza.
Fatigué, enfin.
Yes, fatigué. La, L-A-S en français. Mm. Donc lazza, ça s'écrit L-A-C-A, puisque n'oublions pas que le C se prononce ts. Lerni.
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 Lerni. Lerni.
Apprendre.
Apprendre. To learn en anglais ou lernen en allemand. Libro.
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 Un livre.
Un livre, à ne pas confondre avec libero.
La liberté.
La liberté. Loco.
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 C'est l'endroit, un endroit, un lieu.
Un lieu, un endroit, très bien. Attention, loco en espagnol, c'est fou.
Ah.
Voilà.
Minestias.
Minestias. Bon, allez. Loco, donc un lieu. Bon, et si on donnait à nos auditeurs quelques phrases très simples de tous les jours? Comment dire oui?
Yes.
Et non?
Né.
Né, bon. Bonjour.
Bonjour. Bonan tagan.
Yes, vous pouvez dire saluton, saluer, salut, bonjour, ou bien bonan tagan, bonne journée, bonjour, effectivement. Le matin, si on est le matin.
Bonan matinon.
Très bonne. Le soir.
Bonan vesperon.
Très bonne. Et bonne nuit.
Bonan nocton.
Très bien. Alors, pourquoi ces expressions possèdent-elles un N à la fin? Pourquoi pas bonatago? Pourquoi bonantagon? Pourquoi saluton?
Parce que c'est ce qu'on appelle en espéranto le... l'accusatif.
L'accusatif. On ne souffle pas, Laurence. Non, c'est très bien, c'est très bien. L'accusatif. Et donc, l'accusatif marque le complément d'objet direct. Voilà. Donc, en fait, quand on dit saluton, on dit en fait « je te souhaite mon salut » ou « je te donne » ou « je t'offre mon salut ». Je t'offre quoi, mon salut? Mian saluton. C'est pour ça qu'on trouve un N à la fin du salut, saluto, donc saluton. De même, je te souhaite une bonne journée, bonan tagon, etc. Même si le verbe n'est que suggéré, eh bien, on trouvera cet accusatif, ce fameux N, que les Français ont tendance à oublier parce que nous ne marquons pas le complément d'objet direct de cette manière.
Eh bien, laissons la fin de ces exemples pour la prochaine émission. Vous aurez donc acquis la prononciation de l'espéranto en 3 séances de moins d'une demi-heure, pas plus. À très bientôt donc.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.